Bonjour, j'ai le plaisir et j'ai l'honneur, surtout aujourd'hui, d'être avec le sociologue Michel Maffezoli. Bonjour Michel Maffezoli.
Bonjour.
Alors, avant de parler de votre nouveau livre, Le temps des peurs, Michel Maffezoli, j'aimerais commencer là-dessus parce qu'on va aller par escalier finalement dans ce raisonnement. J'aimerais commencer par ce qui est sorti en livre de poche récemment sur le mythe de Dionysos. Vous avez travaillé sur ce mythe évidemment avec Julien Freud. J'ai le sentiment aujourd'hui que la société finalement, le dieu Dionysos, finalement on pourrait qualifier de dieu de la fête, de la folie, de la vigne, de la démesure, c'est l'inverse de la société actuelle où, au nom du principe de précaution, au nom du refus du plaisir, on est dans une sorte de société anti-Dionysos. Restez chez vous, sortez pas tard le soir, faut pas boire d'alcool, faut boire de l'eau, faut arrêter de fumer. Est-ce que c'est pas cette société dans laquelle nous vivons, Michel Maffezoli ?
Écoutez, cher ami, non, je vais un peu vous contredire si vous me le permettez.
Ah, c'était une question, donc il y avait aussi.
Non, mais excusez-moi, de toute façon, voilà. Puisque vous avez rappelé ce que je devais à Julien Freud, bien sûr, j'ai eu deux grands maîtres dans ma vie, je tiens à le dire. Je pense qu'il est important de rappeler qu'on a besoin et que c'est très utile d'avoir des maîtres. Il y a Julien Freud que j'ai connu à Strasbourg lors de mes études, et puis un peu plus tard, Gilbert Durand, qui était professeur à Grenoble. Et c'est avec ces deux, d'ailleurs, que j'ai fait mes thèses, puisqu'à l'époque, il y avait deux thèses, dont la thèse d'État. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans cette thèse d'État, qui s'appelait « La violence totalitaire », qui est parue d'ailleurs au PUF en 1979, il y a eu plusieurs éditions maintenant, je montrais exactement, enfin, ce que vous venez de dire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est des moments où il y a une espèce d'hygiénisation, de pasteurisation, le fameux risque zéro. Alors, en effet, ne pas boire, ne pas fumer, mettre des ceintures de sécurité, enfin, toutes ces choses, dès ce moment-là, je rendais attentif au fait à ce que j'appelais un totalitarisme doux. Alors, de fait, oui, dans la société, je fais une distinction, et voilà pourquoi je dis oui et non. Dans la société officielle, celle du pouvoir, à bien des égards, bien oui, bien sûr, tente à dominer ce risque zéro, et on l'a vu dans les trois ans, je ne sais plus, qui viennent de s'écouler. En même temps, dans ce que j'appelle personnellement la société officieuse, en particulier représenté par les jeunes générations, le peuple aussi, tout simplement, qui ne se reconnaît plus dans ses élites, eh bien là, je considère que la figure dionysiaque, voilà pourquoi je fais ce long détour, est une figure qui reprend de l'importance et qui, de mon point de vue, va prendre de plus en plus d'importance. Voilà, la distinction, elle est là. Les deux mots qui pour moi sont importants, le pouvoir institué, et la puissance instituante. Le pouvoir institué repose sur cette idée de pasteurisation, d'hygiénisation à tout craint. La puissance instituante, au contraire, est en train de réinvestir, de mon point de vue, voilà, je vous donne mon hypothèse, la figure dionysiaque, qui est en effet une figure du plaisir, de la fête. Dionysos, c'est Bacchus en grec, en latin, Bacchus fédérateur. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la dépense. Et par là, c'est rejouant un peu la formule populaire, très simple, qui perd, gagne. D'une certaine manière, il y a dans cette notion de dépense quelque chose qui, de mon point de vue, est en train de renaître.
Très intéressant, parce que c'est en train de renaître. Vous avez évoqué ce concept de tribu, au pluriel, ensuite des soulèvements, pas du soulèvement. C'était votre précédent livre. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'un soulèvement, on dit le peuple va se soulever. C'est au singulier, donc c'est le peuple. Vous dites des soulèvements. Est-ce que ça veut dire que c'est multiple, avec ces tribus, finalement, et dans ces tribus, il y a les Dionysos, les adorateurs de Dionysos, et l'inverse, ceux qui le combattent.
Alors, voyez-vous, puisque vous faites référence à ce livre qui est paru en effet en 2020, « L'ère des soulèvements », je voulais prendre le contre-pied d'un très beau livre d'ailleurs d'un historien américain qui s'appelle Hobsbawm et qui avait écrit « L'ère des révolutions ». Et l'ère des révolutions, il montrait comment, c'est justement, de 89, 1789 jusqu'à peut-être en 1968, il y a eu, ça a été ponctué, 1848, 1830, pardon, 1917, etc. Nos sociétés étaient pensées en termes de révolution, c'est-à-dire on va atteindre un peu plus tard la société parfaite. Hein, c'était la grande tradition hegelienne, puis après marxiste, hein, en quelque sorte, qui a marqué cette tendance des révolutions pour la société à venir. Demain, on rasera gratis, hein, les lendemains qui chantent. Quand je dis, moi, l'ère des soulèvements, ben, c'est que justement, il n'y a plus, si je puis dire ainsi, des partis, des syndicats, ce qu'on appelait dans ma jeunesse l'avant-gardisme, le stalinisme, le léninisme, sous ces diverses modulations, qui pensaient pour le peuple. Hein, et qui, dans le fond, le peuple était un peu débile, il fallait lui donner sa conscience révolutionnaire. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est totalement en train de changer. Ce n'est pas une révolution future à atteindre, lointaine. En effet, c'est, comment dire cela, une multiplicité de soulèvements qui peuvent prendre des formes très diverses. Et vous avez employé un terme qui m'est cher, les multiples tribus constituant la postmodernité. Alors, c'est quoi ? Alors, ça pouvait être, si on reste dans l'actualité pas trop lointaine, les gilets jaunes, ça peut être les convois de la liberté. Mais ça peut être aussi, moi je rappelle, les grands rassemblements juveniles, par exemple, hein, c'est-à-dire rave party, rassemblements musicaux, qui sont considérés comme étant illégaux et qui, de mon point de vue, traduisent tout simplement le fait qu'on ne se reconnaît plus dans les valeurs officielles de la société de consommation, hein, de le pouvoir d'achat, hein, l'économie qui est censée prédominer. Et pour moi, les soulèvements, ils n'en sont qu'en leur début. Je ne vais pas ici jouer au prophète, mais à mon sens, nous allons dans les mois qui viennent, et peut-être, oui, un peu plus longtemps encore que des mois, assister à de multiples soulèvements à partir de prétextes. Alors, ça peut être la réforme des retraites, ça peut être l'abstentionnisme au niveau des élections. C'est, pour moi, symptomatique. Ce sont aussi des soulèvements quand on a 50% de la population qui ne participe pas au vote, quand il y a les 15 à 20% de non-inscrits sur les listes électorales, etc. Voilà, tout ça, des soulèvements. Vous voyez, si je fais image, et j'en parle dans mon livre, je dis... La société est comme un lac étal, l'eau est là, ça bouge pas. Et en dessous, ça grouille, il y a du fourmillement. Et de temps en temps, ce grouillement se manifeste au travers de grandes métastases, de grandes bulles avec des métastases qui sont très fortes et qui en même temps cessent rapidement. Voilà ce que j'appelle des soulèvements. Voilà en quelque sorte le fait que, de mon point de vue, le peuple ne se reconnaît plus, il ne se sent plus représenté. Hein, on n'est plus dans l'idéal démocratique et du coup, pour le meilleur et pour le pire, soyons clairs, dans la crainte et le tremblement, de mon point de vue, il y aura et il va y avoir de plus en plus de ces soulèvements.
Est-ce que ces micro-soulèvements, Michel Maffezoli, ne forment pas les intérêts de l'élite ? Parce que ce sont des soulèvements très nombreux, mais cela reste des micro-soulèvements. Dans chaque soulèvement, il y a des gens qui se croient unis le temps d'un combat, qui se séparent ensuite et qui se recombattent pour un autre combat parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc finalement, ça n'aboutit jamais à rien, sauf qu'à des petites tempêtes qui ne gênent pas finalement.
Oui, je comprends. On peut dire ce que vous dites. Hein. C'est pas faux à bien des égards. Mais vous savez, s'il y a ce qui est mon sentiment, une multiplicité de ces petits soulèvements, en effet, ils ne sont pas unifiés. Ils ne répondent pas aux organisations politiques, aux organisations syndicales, et on voit qu'il y a une vraie faillite, en quelque sorte, de la forme parti. Ça a été déjà dit par des sociologues importants, comme Roberto Michels, par exemple. On voit bien comment, en France, les syndicats représentent 5, 6, 7, 8% de la classe ouvrière. Donc, oui, certes, il n'y a plus, si vous voulez, quelque chose qui est unifié. En même temps, je fais exprès d'employer ce mot, qui est d'ailleurs un mot que j'emprunte à Gilbert Durand, puisque je l'ai cité tout à l'heure, cet anthropologue, qui montre que dans les périodes intermédiaires, il y a ce grouillement, ce fourmillement. On ne sait pas, on ne peut pas encore une fois jouer au prophète, mais à bien des égards, la multiplicité de ces soulèvements fait que, à terme, et pas à long terme, eh bien, on peut assister, moi c'est mon hypothèse, à un vrai changement civilisationnel. Nous sommes à la fin d'une époque, nous vivons la fin de la modernité qui commence avec le XVIIe siècle, qui s'achève avec les révoltes juvéniles du siècle dernier. Et donc, dans ce moment un peu intermédiaire entre deux époques, eh bien, voilà, il y a multiplicité de ces soulèvements. Soyons clairs, peut-être que cela va aboutir à une société tout à fait différente à celle que nous connaissons actuellement, et de mon point de vue, les jeunes générations sont porteurs de ce changement sociétal, comme on dit.
Peut-on déceler les prémices de ce changement civilisationnel, Michel Maffezoli, à travers ce que l'on entend, les modes? On dit qu'on est dans une société où la propriété privée va disparaître, que les jeunes ne veulent plus être propriétaires de leur voiture ou de leur logement, veulent passer dans l'ère de la location. Ça, c'est par exemple ce qu'on entend le plus souvent. Je prends cet exemple et je pourrais en prendre d'autres.
Disons que alors, c'est encore une fois, on ne peut donner que des indices. Hein. Indice, ça signifie index, hein, ce qui pointe. On peut, moi, dans mon travail depuis une quarantaine d'années, j'ai rendu attentif, en effet, aux valeurs dionysiaques, à l'importance des tribus, à ce que j'ai appelé le nomadisme. Ça circule à bien des égards. Et ce qu'on voit dans ce changement, comme on appelle transition épocale, hein, ce changement d'époque, eh bien, en effet, ce qui ressort, nous, des enquêtes que j'ai pu faire quand je dirigeais à la Sorbonne le centre que j'avais fondé, le centre d'études sur l'actuel et le quotidien, je rendais attentif que, vous voyez, quelque chose qui apparaissait et qui continue à apparaître chez ces jeunes générations, ne plus perdre sa vie à la gagner, faire de sa vie une œuvre d'art, hein, si je le dis d'une manière un peu nietzschéenne.
Ouais, la grande démission, en ce moment.
Par exemple, en effet, c'est un élément qui n'est pas négligeable, le turnover des cadres. Hein. Nous, on avait fait une étude pour le MEDEF en montrant que ce fameux turnover, ce n'était pas parce qu'il y avait tel avantage salarial dans telle entreprise, mais c'est que Internet aidant, on savait que là-bas, c'était fun, c'était cool. Il fallait apprendre à gérer le fun et le cool, hein, si je le dis de manière un peu humoristique. Bien, voilà, c'est ça le changement qui est en jeu, vous voyez, c'est-à-dire c'est plus le jeu maître de lui, mais c'est le nous, la tribu. C'est plus simplement le rationalisme qui a prévalu à partir du cartésianisme, la philosophie des Lumières au XVIIIe, mais bien le retour forcené, pour le meilleur et pour le pire, je le répète, de l'émotionnel. Ce n'est plus, encore une fois, le progressisme, hein, quelque chose qui renvoie la jouissance à plus tard, mais le présentéisme. Hein, un de mes livres s'appelait « La conquête du présent hein, ». Vous voyez. Et de fait, voilà ce changement qui est en jeu actuellement. On peut repérer, encore une fois, que ce n'est pas simplement l'individualisme qui prévaut, mais le « nous ». Ce n'est plus le rationalisme, mais l'émotionnel. Ce n'est plus le progressisme, mais c'est le « ici et maintenant ». Voilà pour moi vous voyez, ce qui est en train de s'esquisser. Mais bien sûr, comme toujours, d'une manière qui est pas aisée, et il est difficile à bien des égards de faire une systématisation. On peut faire que de la description, du constat.
Dans ce constat, il y a celui que vous faites, c'est un mot qui revient souvent depuis plusieurs mois. Depuis 2 ans déjà, on dit que le gouvernement, que les gouvernements dans le monde gouvernent par la peur. Et donc, on est dans le temps des peurs, comme vous le dites, Michel Maffezoli. Peut-on avoir un débat apaisé sur cette question sans se faire traiter de conspirationniste ou de complotiste?
Ben écoutez, dans le livre auquel vous faites référence, Le temps des peurs, j'ai un chapitre justement le fameux complotisme. En gros, on va qualifier le complotisme ceux qui ne pensent pas droit, si je puis le dire un peu simplement. Voilà. Mais ça, c'est de tout temps, si vous voulez. Hein. Je vais vous dire la seule formule, moi, que j'essaie d'élaborer. Je suis un vieux libertaire, mais j'ai fait quand même une espèce de loi sociologique en disant, il est un peu compliqué, je le dis et je l'explique, l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. Hein, c'est-à-dire, anomique, c'est ce qui est hors la loi, à côté de la loi, etc. Ça va devenir le canonique, le canon, hein, c'est-à-dire la loi. Et ouais, moi, c'est un peu cela qui me semble être en jeu actuellement, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a cette stratégie de la peur, du pouvoir, des élites, et c'est pas la première fois qu'il y a quelque chose de cet ordre. Hein. Des bons historiens comme Delumeau nous ont montré que régulièrement, quand une époque s'achevait, quand une élite était en déperdition, elle pratiquait cette stratégie de la peur. C'est ce qui s'est passé depuis les 3 ans sur la psychopandémie que l'on a connue et tout à l'avenant, mais c'était une manière de faire peur pour demander la soumission. Hein. Je te protège, tu te soumets, en quelque sorte. Voilà ce qui était ma définition de cette stratégie de la peur. Et en même temps, comment dire, ces apeurants, hein, ceux qui maintiennent la stratégie de la peur, sont des apeurés. Ils ont peur. Ils pressentent que leur pouvoir est en train de s'achever. Et on peut s'attendre justement à ce que la multiplicité des soulèvements, puisque c'était ça qui était en jeu tout à l'heure dans notre débat, je dirais, se développe et montre bien en quelque sorte que les apeurants vont être de plus en plus apeurés. Voilà. Et que donc, si je le dis aussi ici avec une formule d'un sociologue économiste qui n'est pas très connu en France, qui s'appelle Vilfredo Pareto, eh bien on est dans un moment où il y a une circulation des élites.
La fameuse théorie de Pareto. Oui.
Voilà. La circulation des élites. Hein, qui est la formule de Pareto est intéressante de ce point de vue. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement.
Vous savez que c'est fantastique ce que vous venez de me dire, Michel Maffesoli. Vous me dites clairement que les élites actuellement sont apeurées, elles ont peur, et en fait, elles n'ont pas peur des peurs qu'elles invoquent, qu'elles distillent auprès de la population, comme si elles savaient que ces peurs étaient fictives, mais elles doivent créer des peurs fictives parce qu'elles ont peur de perdre leur pouvoir. C'est ce que je comprends.
C'est exactement cela, cher ami, c'est exactement cela. Hein, c'est pour ça que je m'amuse à jouer les apeurants sont des apeurés, pour faire une espèce d'une petite formule. Mais dans le fond, soyons clairs, hein, quand même, ils n'en sont pas conscients, ils pressentent. Je préfère dire ils pressentent. Okay. Et encore une fois, cela s'est vu à d'autres époques. Hein. Chaque fois que s'achève une époque.
Pressentir, ça veut dire quand on dit je sens mal les choses, quoi, même si.
Voilà, c'est pas très clair, etc. Ouais. Mais il y a un sentiment diffus, on va dire. Hein. Et on le voit, si vous voulez, la classe politique, soyons clairs, hein, gauche et droite confondues, de mon point de vue, hein, les partis politiques. Sont dans une, je m'en suis expliqué dans des livres précédents, m'inspirant à la fois de Guy Debord ou de mon vieil ami Jean Baudrillard, je montre qu'on est dans un tel moment où c'est la société du spectacle qui prévaut. Baudrillard parlait du simulacre, c'est le mensonge, en bref. Et donc, du coup, on ne croit plus à la parole publique. Et la théâtralisation de ce qui est en jeu actuellement dans le débat politique montre bien, si vous voulez, que à bien des égards, nombreux sont ceux qui savent bien que ce qui prévaut, c'est le mensonge. Et donc, voilà, en attendant que notre discours s'élabore, en attendant qu'une autre structuration de la société se fasse, eh bien, à ce moment-là, il y a en effet ces soulèvements. Donc, pour moi, la stratégie de la peur est, dans le sens fort du terme, l'indice que ces élites sont finies, hein, qu'il va y avoir une circulation. Et je m'en suis expliqué dans un livre précédent qui s'appelle La faillite des élites. Quand je dis élite, hein, c'est politique, journaliste et expert. Actuellement, on emploie ce mot, expert, etc. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de dire et ceux qui ont le pouvoir de faire. Moi, je pense que ces élites qui ont le pouvoir de dire et de faire pressentent, hein, que leur grande valeur sont en train de s'achever, comme cela arrive à d'autres moments, hein, à d'autres époques où il y a un changement de valeur. C'est ce qui est en jeu actuellement, de mon point de vue.
Oui, mais quand vous employez le terme de circulation dans l'imaginaire collectif, la circulation, ça veut dire un flux avec des choses qui rentrent et des choses qui sortent. Or là, les gens vous disent tous, il n'y a personne. On est perdu, il n'y a plus d'élite politique. Les gens sont perdus, Michel Maffesoli.
Oui et non, j'en sais rien. Disons que, en effet, on va assister à un type de société qui ne fonctionnera plus sur ce qui nous a été familier, en particulier en France, une structure jacobine, hein, c'est-à-dire la verticalité du pouvoir. Si je le dis d'une manière imagée, ce que Jacques Lacan appelait la loi du père. le sachant, le chef d'entreprise qui sait à la place des autres, l'homme politique qui est censé savoir ce qui est le bien pour les autres, etc. Bon, alors ça, c'est une structure verticale qui a fini. Hein. On dit qu'on comprend bien une société quand on a saisi sa topique, hein, le topos, le lieu. Le topos, la topique moderne, c'est cette verticalité. Là, actuellement, il y a une attitude, plutôt une tendance, de mon point de vue, à l'horizontalité, ce que j'ai appelé la loi des frères. Non plus la loi du père vertical, mais la loi des frères. C'est quoi ça? Et c'est ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, les forums, les blogs, hein, les Twitter sous leurs diverses modulations. Alors c'est là qu'est en train de se constituer une autre manière de penser la politique, non pas, encore une fois, dans sa verticalité, mais on n'a pas ce mot en français, c'est l'école de Palo Alto en Californie, en sa proxémie. Le proche. Et moi, je suis attentif au développement des associations, du voisinage, des quartiers, sous leurs diverses modulations. Et c'est-à-dire redonner aux politiques ce qui, à l'époque, était son sens initial, la vie de la cité. C'était ça, la police. Hein. C'était ça, à bien des égards, ce qui faisait la cité. Maintenant, c'est devenu totalement abstrait. Je rappelle que, et c'est Platon qui le rappelle, que quand seul celui qui savait gérer sa maison pouvait gérer la maison commune. C'était ça dans la démocratie grecque, dans l'organisation de la cité. Maintenant, ces politiques sont totalement abstraits. Ils ne savent pas ce que c'est que vivre à la vie quotidienne, comment on mange, comment on s'habille, comment on se comporte, comment on pense. Et d'une certaine manière, quand je dis circulation des élites, c'est-à-dire que dans le grouillement, dans le fourmillement des réseaux sociaux, des blogs, des discussions, enfin, etc., je ne vais pas redire cela, bien c'est là qu'est en train de s'élaborer une autre manière d'être ensemble. Hein, rejouer la politique au niveau du proche. Voilà mon hypothèse pour les décennies à venir.
Donc les gens vont vivre, on va remployer ce mot, en tribu, au niveau d'un village, d'un oui. Quartier.
Ouais. Moi j'ai même formulé cela en jouant sur l'euphonie des termes, le lieu fait lien. Hein, le lieu fait lien. N'oublions pas quand même que tout au long de la modernité, ce qui a prévalu, ça a culminé dans le grand schéma hegeliano-marxiste, c'était l'histoire, un peu plus tard, demain, le report de jouissance. Actuellement, c'est plutôt l'espace qui prévaut. Marx, justement, disait « l'esprit de la ville rend libre », c'est-à-dire qu'il fallait se déraciner. Moi, au contraire, mon hypothèse, peut-être c'est le seul oxymore qui restera de mon travail, c'est ce que j'appelle l'enracinement dynamique. C'est un oxymore, l'enracinement dynamique, c'est-à-dire que la plante humaine, tout d'un coup, se souvient qu'elle a besoin, comme toute plante, qu'elle a besoin de racines pour croître. Voilà ma grande hypothèse actuellement, c'est-à-dire hein, cette idée de localisme sous ces diverses modulations. Intéressant de voir comment, de plus en plus, la préscience que j'ai dit de cette classe politique, ils emploient de plus en plus le mot territoire. Le mot territoire, ben oui, c'est le terroir, c'est encore une fois l'espace. Voilà pour moi ce qui est en gestation, c'est ce que nous avons à penser, non pas simplement l'histoire future, mais cette conquête du présent dans le territoire que je partage avec d'autres.
On a certes besoin de la racine pour croître, mais intellectuellement, la racine, aujourd'hui, on la rejette au nom de l'égalitarisme, Michel Maffezoli. Un professeur me disait récemment, et je suis sûr que vous avez de nombreux exemples comme ça, un professeur, par exemple, spécialisé dans le cinéma, qui a bien étudié toute l'histoire du cinéma, dit à ses élèves que tel film est bien et que tel film est de mauvaise qualité. Ben, les élèves, au nom de l'égalitarisme, lui disent « Mais qu'est-ce qui vous donne le droit de critiquer ce film alors que nous, on l'aime bien ? C'est votre avis. » Et leur avis est à égalité avec celui du professeur. Et par exemple, les caractères de la Bruyère, pour les élèves, si ça les ennuie, ben, ils vont lui dire « On préfère tel youtubeur. » Et pour eux, c'est l'égalitarisme. Donc il y a aussi un rejet de la racine. On la respecte pour les plantes et pour l'écologie, mais on la rejette intellectuellement. Ce qui m'amène à penser qu'on va peut-être, pardonnez-moi, mais vers un bordel généralisé.
Pas forcément. Moi, je suis frappé par le fait que, quand je dis la racine, en reparlant de l'enracinement, je renvoie, je pense, si vous voulez, au fait que de diverses manières, il y a le retour des traditions que le progressisme benait et le progressisme destructeur avait nié. Hein. Encore une fois, j'ai dit le déracinement marxien, par exemple, a nié l'expression. Il fallait se déraciner. Là, au contraire, il y a retour de la tradition, retour du sacré. J'ai même consacré un livre à cette thématique-là, de ce retour du sacré, le retour, encore une fois, des traditions ancestrales, hein, un peu à la manière de ceux que, d'une manière un peu prémonitoire, Joseph de Metz rappelait. Alors voilà, pour moi, c'est un peu ce retour du tradition, c'est tradar, hein, ce qui a été donné, je le transporte. Hein, voilà, je le donne à nouveau. Et pour moi, c'est un peu cela qui me paraît être en jeu. Alors, de ce point de vue, vous voyez, par rapport à votre professeur, et moi j'ai été professeur à la Sorbonne pendant 40 ans, donc j'en sais un peu quelque chose, on ne peut plus fonctionner sur une conception simple de l'éducation, hein, l'éducar, hein. Moi je sais, je te tire, hein, et ça a été une forme de transmission qui a fait son temps de mon point de vue. Par contre, quelque chose d'autre est en gestation, non plus l'éducation, mais l'initiation. L'éducation, c'est que moi je sais, toi tu sais pas. Ou des quoi, Edoukar, et je te tire. L'initiation, c'est faire ressortir le trésor qui est en tout un chacun. Et pour moi, il est en train de, c'est ça, il y a deux formes de transmission, hein, éducation, initiation. Et de mon point de vue, l'éducation a bien marché, il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe, ça ne marche plus. Et donc, il y a un retour de la tradition, Internet aidant. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, j'ai fait mon cours dans mon amphithéâtre d'Urkheim à la Sorbonne pendant 30 ans, je faisais mon cours magistral. Sinon que la dernière décennie, j'avais en face de moi mes doctorants qui avaient leur micro-ordinateur ouvert et qui pouvaient poliment me dire « Monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel n'est pas de 1823, il est de 1826, je ne me souviens plus, peu importe. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils pouvaient en quelque sorte, avec politesse, contester le savoir vertical que nous avions l'habitude d'imposer, si je puis dire. Alors voilà, alors vous appelez cela l'égalitarisme? Non, je dis tout simplement, il y a des formes de culture plurielles, diverses. Wikipédia prend la suite de l'encyclopédie universaliste, hein, qui était, moi j'écris dans l'encyclopédie universaliste, donc je vois bien un peu, en quelque sorte, comment on a imposé un savoir. Là maintenant, il y a quelque chose qui est de l'ordre du partage. Donc c'est ce qui me paraît important concernant ces jeunes générations. Voilà, ils ont un autre type de culture, mais en même temps, quelque chose qui peut être riche et qui n'est pas, mais qu'on ne peut pas simplement imposer tel que nous avions l'habitude de le faire dans la tradition éducative.
Merci Michel Maffezoli de m'avoir répondu. Votre dernier livre, hein, en date, s'appelle Le temps des peurs, donc de Michel Maffezoli. Il est publié aux éditions du Cerf.
Merci.